Europe 1, le 22-22-30,
Julien Pierce.
Bonsoir et bienvenue sur Europe 1 ce vendredi soir. La journée a été longue, riche en actualité. Alors installez-vous confortablement, on va analyser tout ce qui s'est passé. Nous sommes ensemble pour 30 minutes d'info. Il est 22h, vous êtes sur Europe 1. Un cluster géant à l'hôpital de Dieppe, près de 300 contaminés au Covid, dont 148 soignants, et c'est loin d'être un cas isolé. Trois autres hôpitaux sont dans la même situation. S'agit-il du variant anglais ou d'un relâchement des gestes barrières? Réponse dès le début de ce journal. Le gouvernement déconseille les voyages touristiques en Europe, mais aussi en France. En clair, ne réservez pas pour les vacances de février, on risque de les passer à la maison. Des flacons en moins, une polémique de plus. Pfizer va réduire ses livraisons de vaccins en Europe et se voit accusé de gonfler ses profits. La France demande ce soir au labo américain d'honorer ses engagements. Quand le Premier ministre qui nous a confinés au printemps rencontre celui qui nous a reconfinés à l'automne, ça donne Édouard Philippe et Jean Castex sur un même bateau. C'était au port du Havre, nous y étions. Dans ce journal également, des victimes d'escroquerie défendues par un faux avocat, la disparition de Rémi Julien, le roi de la cascade au cinéma, et puis le foot, le PSG affronte en ce moment Montpellier, Julien Froment.
Ouais, c'est la pause 1-0 pour Paris face à Montpellier, but signé Kylian Mbappé à la 34e minute de jeu.
Merci Julien et à tout de suite. La météo, elle est marquée ce soir par cette alerte en Corse. L'île de Beauté est en vigilance orange pour orages violents et vent et vagues submersion. Demain, le temps s'annonce encore agité sur une grande partie du pays, nous dira Anissa Haddadi. La bourse de Paris, elle a clôturé ce soir en baisse, moins 0,56% à 5559 points. Et tous les détails à venir avec Claire Lemaître de boursier.com. Et puis l'interview Echo. Dans 20 minutes, les soldes ont du retard à l'allumage, les ventes sont en recul de 30% sur les premiers jours. Pour en parler, Emmanuel Duteil reçoit ce soir Francis Palombi, le président de la Confédération des commerçants de France.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est un mot que nous avons appris pour beaucoup, que nous avons découvert au printemps dernier, cluster, foyer de contamination en bon français. On en compte ce soir près de 2000 partout en France. Il y en a des petits, des gros et des gigantesques, comme à l'hôpital de Dieppe, où là, ce sont presque 300 personnes qui ont été testées positives, dont 148 soignants. Chiffre impressionnant qui soulève cette question. Le variant anglais est-il à l'origine de cette explosion de cas, Hélène Terzian?
Alors, pour le moment, l'hypothèse du variant anglais est écartée. À ce jour, sur 8 prélèvements envoyés pour analyse, pour séquençage, la moitié des résultats est revenue négative. Les autres sont en attente de réponse. Il n'en reste pas moins que la tension reste toujours forte, notamment au sein du service gériatrie. À l'hôpital, 30% des opérations chirurgicales non urgentes sont déprogrammées et l'Agence régionale de santé a déclenché la réserve sanitaire.
Et ce n'est d'ailleurs pas le seul hôpital où il y a un cluster, Hélène.
Oui, à l'hôpital de Compiègne, près de 170 patients et 75 agents ont été testés positifs au Covid. Sur le groupe hospitalier de La Rochelle et Rochefort, 120 personnes sont contaminées. Pour ces deux établissements, là aussi, la piste du variant anglais est pour le moment écartée. Alors, pour expliquer la multiplication de ces clusters, le professeur Gilles Pialoux, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Tenon à Paris, évoque notamment la baisse de précautions en dehors des unités Covid et services d'urgence.
Parce que les malades qui passent par les urgences, globalement, sont extrêmement dépistés. Par contre, il n'en est pas de même de la médecine où il y a beaucoup d'actes et de consultations où le malade est, on ne connaît pas son statut. Et on applique moins bien les gestes barrières et les moyens de protection quand on n'a pas le statut Covid de la personne.
Le professeur évoque aussi une baisse de vigilance dans les salles de repos des soignants et enfin des facteurs de risque dus à leur mode de vie. Infirmiers et aides-soignants habitent souvent loin de leur hôpital. La durée de leur trajet augmente le risque de contamination.
Merci Hélène Terzian. Autre cluster inquiétant, celui détecté à Valorcine dans la vallée de Chamonix. Une dizaine d'étudiants britanniques ont été testés positifs peu après leur arrivée, alors qu'ils avaient tous un test PCR négatif au moment de poser le pied en France. Une mesure qui a donc ses limites, mais que le gouvernement va pourtant généraliser à tous les voyageurs européens dès lundi. Seront exemptés les travailleurs frontaliers et le transport terrestre, routier et ferroviaire. Le message en tout cas est clair, limitez vos déplacements en Europe, mais aussi en France. C'est ce qu'ont laissé entendre aujourd'hui plusieurs membres de l'exécutif. D'où cette question, à deux semaines des vacances d'hiver, allons-nous devoir rester à la maison en février, Emmanuel Duteil?
Bien, je suis désolé, c'est un risque. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que les possibilités se réduisent. Clément Beaune, secrétaire d'État aux Affaires européennes, a été clair ce matin sur Europe 1. C'est bref, mais sans ambiguïté.
Les voyages touristiques, appelons-les comme ça, oui, on les déconseille.
on les déconseille. Alors vous me direz, on peut toujours aller en vacances en France. C'est vrai que pour le moment, c'est plutôt possible. Mais attention, là aussi, un risque plane. C'est quoi ce risque? Eh bien, c'est celui d'un éventuel troisième confinement. Jean-Baptiste Lemoyne appelle pour sa part les Français à la prudence. Un changement de pied pour celui qui est le secrétaire d'État au tourisme, qui a incité encore lui récemment les Français pourtant à réserver leurs vacances. Il faut donc faire bien attention à pouvoir annuler au dernier moment. Des annulations, même si ce n'est pas massif, il y en a en ce moment à la montagne. Confinement ou pas, on ne pourra pas skier en février. Le monde de la montagne estime qu'une saison blanche pourrait avoir des conséquences catastrophiques. Plus largement, c'est tout le secteur du tourisme qui fait quasiment une croix là en ce moment sur ses vacances de février. Tous maintenant ont un seul espoir, que la situation s'améliore pour les vacances d'été. Car sans cela, là, ce sera véritablement dramatique pour tout le secteur.
Merci Emmanuel Dutheil. Alors qu'en pensent les futurs vacanciers? Faut-il quand même réserver ou au contraire tout annuler? Eh bien, il semblerait que ce soit cette deuxième option que privilégient les Toulousains, Benjamin Péter.
Oui, pourtant ici, à quelques kilomètres des Pyrénées, les Toulousains ont toujours un peu l'habitude de partir au moins un week-end. Mais Pierre-Louis, cette année, a dû revoir ses plans.
On aime bien aller au ski, mais bon, là, forcément, c'est compliqué. Du coup, on va rester à la maison tranquillement. Si les stations ouvrent, oui, moi j'irai. Mais bon, j'y crois pas.
Aurélien non plus ne partira pas. Il est persuadé que d'ici là, le pays sera reconfiné.
En fait, il n'y a aucun intérêt à planifier les vacances avec un reconfinement qui va possiblement arriver. Et pour aller où? Si pour aller nulle part, et ne rien faire, autant rester chez moi. C'est impossible de planifier en ce moment, donc autant ne pas planifier. Pour relativiser un peu et de se dire que ça va passer. Et la situation se dégrade, faut être lucide et se dire que février, c'est pas pour cette année.
Et pourtant, les plus audacieux peuvent quand même bénéficier de prix très avantageux, que ce soit pour les locations, les billets de train. Alors Juliette a réservé, quitte à tout annuler au dernier moment.
J'ai ma sœur qui est sur Paris. Le week-end, je vais essayer d'aller la voir de temps en temps et essayer de vivre un petit peu tant qu'on peut. J'ai déjà pris mon aller, après les retours, je vais voir au cas par cas, mais... J'ai tendance à m'y prendre un petit peu à l'avance. La SNCF permet quand même de rembourser les tickets à 100% les 3 jours avant, donc je pense qu'en 3 jours, on a quand même le temps de se retourner.
Et beaucoup me confiaient qu'ils misaient désormais davantage sur les vacances de Pâques et le retour des beaux jours.
Benjamin Péter, correspondant d'Europe 1 à Toulouse, où comme partout en France, des cas de variants anglais ont été recensés ces derniers jours. Variants beaucoup plus contagieux, ça on le savait. Ce qu'on apprend en revanche ce soir, c'est qu'il pourrait également être plus mortel. C'est en tout cas ce qu'a déclaré tout à l'heure le Premier ministre britannique Boris Johnson, dont le pays enregistre plus de 1500 morts chaque jour en moyenne. Ce variant n'est toutefois pas invincible. Les premières études montrent que le vaccin Pfizer reste efficace face à cette mutation. Une bonne nouvelle, ternie par un tour de passe-passe du laboratoire américain. Je vous en parlais ici même hier soir. Pfizer se base sur la recommandation européenne de prélever une dose supplémentaire par flacon pour réduire d'autant ses livraisons. Moins de flacons donc pour plus de profit, Jean-Gabriel Bourgeois.
Oui, l'Europe a commandé 600 millions de doses au laboratoire américain. Ces doses seront effectivement livrées, mais avec moins de flacons. Pour honorer son contrat avec l'Union européenne et ses 600 millions de doses, Pfizer ne livrera désormais plus que 100 millions de flacons au lieu de 120. Sachant que le prix d'achat d'une dose a été estimé à 12 euros, on sort la calculette avec ces 20 millions de flacons économisés. Pfizer peut miser sur un gain potentiel d'1,5 milliard d'euros. De manière habile, le laboratoire américain assure que ce surplus de flacons pourrait servir aux pays en voie de développement, mais rien n'empêche, en théorie, de les revendre ailleurs aux plus offrants. Certains pays européens sont déjà très remontés et ce soir, Paris demande à Pfizer d'honorer ses engagements de livraison. Sur BFM TV, Clément Beaune, le secrétaire d'État aux Affaires européennes, met la pression sur le laboratoire.
Les livraisons, elles se font en flacons. Donc le sujet du nombre de doses par flacon ne change rien pour l'industriel. Il doit honorer ses engagements. Les prix qu'on a payés, les livraisons qu'on a agréées, elles doivent être respectées, point barre. Donc le prix, il a été fixé, on le tient, et il sera payé au nombre de doses qu'on a fixées aujourd'hui, 5 doses par flacon.
Et de son côté, autre stratégie, l'Italie est en train d'étudier la possibilité de recours juridique.
Merci Jean-Gabriel Bourgeois de s'y réaliser avec Victor Delande du service Société d'Europe 1. Et on l'apprend à l'instant, Pfizer va fournir à prix coûtant 40 millions de doses à l'OMS, qui les distribuera ensuite à des pays défavorisés. Cela représente un tiers des doses que le labo vient de nous retirer. Il en reste donc 80 millions que Pfizer va pouvoir revendre à prix d'or. Et puis l'Europe n'est décidément pas vernie. Les livraisons du vaccin AstraZeneca seront moins importantes que prévues en raison d'une baisse de rendement sur un site de fabrication, précise le labo britannique. Ce vaccin doit encore être validé par Bruxelles. Et puis la Hongrie fait cavalier seul et devient le premier pays de l'Union européenne à choisir le vaccin russe contre le Covid. Budapest annonce avoir conclu un accord pour l'achat de 2 millions de doses du Sputnik V. Problème, moins de 2% des Hongrois ont confiance dans ce vaccin.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
Jean Castex était aujourd'hui en visite au Havre, ville dont le maire est un certain Édouard Philippe. Quand un ancien Premier ministre rencontre l'actuel, cela donne des retrouvailles chargées de symboles et très politiques, Aurélie Herbemont.
Oui, c'est au port du Havre qu'Édouard Philippe accueille son successeur à Matignon. Pour l'occasion, il arbore des boutons de manchette Dark Vador. N'y voyez aucun message, assure Monsieur le maire. Les deux premiers ministres se retrouvent sur le même bateau, un porte-conteneur gigantesque.
Monsieur le Premier ministre, ça va
très bien. Bienvenue.
Merci, je vois.
C'était sur le plus bel endroit du monde.
Je n'en doute pas.
Depuis la dernière photo des deux hommes il y a 6 mois, la situation a un peu changé. En juillet, Emmanuel Macron remplace Édouard Philippe, visage de la gestion de la crise du Covid, par Monsieur Déconfinement. Depuis, Jean Castex a dû reconfiner le pays une première fois. L'actuel Premier ministre rend hommage à l'ancien.
Monsieur le maire, monsieur le Premier ministre, très cher Édouard, vous aviez eu avec le courage, le sang-froid et la clairvoyance que chacun vous reconnaît, a géré la première vague.
Aujourd'hui, Jean Castex est aux commandes, Édouard Philippe en retrait. Et fidèle à lui-même depuis qu'il a quitté Matignon, il n'est guère bavard. Comment s'est passé votre rendez-vous avec le Premier ministre ?
Très bien.
Le Havre, rien que le Havre pour Édouard Philippe, pendant que Jean Castex se prépare peut-être à confiner le pays une troisième fois.
Aurélie Herbemont, au Havre pour Europe 1. De confinement, ou plutôt de son respect, il en a été question aujourd'hui à Vienne, en Isère. C'est là que se trouve le César Palace, une discothèque où plus d'une vingtaine de soirées clandestines ont été organisées l'année passée, au mépris de toutes les règles sanitaires. L'affaire a été jugée aujourd'hui et l'organisateur a été condamné à 1 an de prison ferme, une peine plus lourde que ce qui avait été requis par le parquet. Venons-en maintenant à cette histoire à peine croyable. Ça s'est passé hier au tribunal correctionnel de Cusset dans l'Allier. Un faux avocat a tenté une vraie plaidoirie, sauf que sa qualité a été tellement médiocre, Guillaume Bier, que tout le monde s'est vite rendu compte de la supercherie.
Oui, alors il faut dire qu'avant l'audience, déjà, il se prenait en photo avec ses clients, ce qui avait pour le moins intrigué. Mais une fois dans la salle, alors qu'il défendait des victimes d'une escroquerie, ça ne s'invente pas, son attitude et sa plaidoirie ont fait douter le vrai avocat en face de lui, Maître Ben Ali Koudja.
On lui donne la parole et c'est là où je me suis rendu compte que ce n'était même pas, je dirais, une plaidoirie d'un avocat qui sort de l'école du barreau, quoi. Là, je me suis interrogé, j'ai vu le procureur, le président se regarder, on se posait 36 000 questions, on s'est dit « c'est pas vrai quoi ».
Incrédule aussi le substitut du procureur Laurent Béard qui a assisté au menottage du suspect.
C'était une scène un peu surréaliste puisqu'on était en présence des clients de ce monsieur, des autres avocats qui étaient intervenus à l'audience. Et lorsque le procureur l'a mis face à ses contradictions, il a fini par reconnaître qu'il était suspendu. Mais a priori, ce qui ressort, c'est qu'il n'est pas avocat du tout. Il n'a jamais été inscrit sur un barreau. C'est un comportement qui est tellement culotté que on se dit que c'est pas possible parce que ça apparaît tellement grossier et pourtant, il est facile finalement d'arriver jusqu'à la salle d'audience en se présentant comme avocat.
Garde à vue pour ce faux avocat, un professionnel de l'escroquerie déjà 11 fois condamné et actuellement poursuivi pour avoir détourné 260 000 euros de dons caritatifs au préjudice de l'association Les Nez Rouges qu'il présidait. La justice le soupçonne désormais d'avoir floué d'autres victimes en tant que faux avocat avec son cabinet juridique ouvert à Limoges. Ce soir, il a été mis en examen et placé en détention provisoire.
Merci Guillaume Bier du service police-justice d'Europe 1. Lui était tout sauf un escroc quand il s'agissait de mettre sa vie en danger. Rémi Julienne, le roi de la cascade, nous a quittés, emporté par le Covid à l'âge de 90 ans. Le casse-cou le plus célèbre du cinéma français a son nom au générique de quelques 1400 films, dont 6 James Bond. Et 007 lui doit beaucoup, Diane Chenouda.
Sans lui, James Bond n'aurait jamais existé. C'est Roger Moore qui l'a dit un jour. L'as de la cascade, ancien champion de motocross, a participé à plusieurs James Bond, 6 en tout. Alors, Rémi Julienne fera ses débuts sur le tournage de Fantomas. En 1964, il double Jean Marais, puis Yves Montand, Alain Delon, la crème du cinéma français. On le voit dans les grands classiques et bien sûr dans La Grande Vadrouille.
On va relancer la citrouille. Allez.
Voilà, dans la célèbre scène des citrouilles, hein, jetée sur les motards allemands, l'un de n'est autre que Rémy Julienne, qui a beaucoup travaillé aussi avec Jean-Paul Belmondo, qui réalisait en effet, vous l'avez dit, lui-même ses cascades. On se souvient tous de la course-poursuite de Bébel dans les rues d'Athènes, dans le casse d'Henri Verneuil, inoubliable aussi, la fameuse scène de l'hélicoptère dans le Guignolo en 1980. Belmondo survole Venise à la seule force de ses bras. Impressionnant.
Merci Diane Chenouda pour cet hommage au cascadeur Rémy Julienne. Et à propos de James Bond, sachez que la sortie du dernier opus est reportée. Mourir peut attendre, c'est son nom, devait sortir début mars. Il sera finalement sur les écrans à l'automne prochain. On termine avec le foot, la 21e journée de Ligue 1 et ce match en cours, le PSG, leader du championnat, qui mène face à Montpellier. Julien Froment, vous êtes en direct du Parc des Princes.
Exactement, 54 minutes de jeu, toujours 1-0 pour Paris face à Montpellier. Butinier, Kylian Mbappé à la 34e minute de jeu, son premier but en 2021 pour l'international français, qui était un petit peu en délicatesse ces dernières semaines. À noter que Paris évolue à 11 contre 10 puisque le gardien héraultais Omlin a été exclu à la suite et bien justement d'une faute sur Kylian Mbappé, carton jaune tout d'abord sorti par Monsieur Delajotte qui finalement est allé voir l'assistance vidéo et a estimé que ça valait bien plus qu'une simple sanction administrative. Donc des héraultais en infériorité numérique et qui souffrent face à une équipe du PSG qui pour le moment manque peut-être un petit peu d'efficacité pour alourdir la marque. À noter que Neymar qui célèbre ce soir son 100e match, derrière va peut-être donner une passe décisive, la frappe de Mauro Icardi et la parade de Dimitri Berthaud, le gardien héraultais. On n'était pas loin justement de la passe décisive donc de Neymar qui joue ce soir son 100e match sous les couleurs parisiennes. Toujours 1-0 pour Paris face à Montpellier après 54 minutes de jeu.
Merci Julien Froment en direct du Parc des Princes pour Europe 1. Julien que l'on retrouvera dans quelques minutes à la fin de cette édition. Et puis notez que l'équipe de France de handball poursuit son sans faute au Mondial. Les Bleus ont battu ce soir l'Islande 28-26. Un nouveau succès qui leur permet d'être en position idéale pour se qualifier en quart de finale. La météo, attention en Corse, l'île de beauté est ce soir en vigilance orange, orage et vent violent. À cela s'ajoute un risque de vague submersion en Corse du Sud. Demain, Nissa Haddadi, le temps sera donc agité.
Oui, avec une nouvelle perturbation, Julien, qui arrive par l'ouest encore demain, avec de la pointe bretonne jusqu'au Pays Basque, des vents violents sur les côtes atlantiques. En Nouvelle-Aquitaine, en Auvergne, en Limousin, là, les pluies seront plus soutenues demain matin. Prudence, attention aux forts cumuls. Dans le centre-Val de Loire et la Normandie, le temps est humide, avec d'ailleurs en basse Normandie des flocons à très basse altitude. Vous aurez de la neige en pleine, par exemple, sur le Calvados. Et puis à l'avant de cette perturbation, de l'Alsace aux Alpes, le temps reste sec et couvert. Demain matin, au bord de la Méditerranée, nous aurons de belles éclaircies. Et puis au fil des heures, le soleil méditerranéen va se couvrir dans l'après-midi. La perturbation avance. Il pleut sur toutes les régions demain après-midi, sauf la Bretagne, la Normandie, les Pays de la Loire, où là, le ciel reste lumineux. Attention, demain, donc, la neige tombe à très basse altitude. Dans les Ardennes, le Calvados, l'Orne ou encore la Picardie, vous aurez de la neige en ville. Les températures, elles sont un peu plus fraîches demain matin, avec 0 à 9 degrés. C'est en Corse qui fera le plus doux et au meilleur de la journée, comptez 6 à 16 degrés, 16 degrés pour la Corse.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Europe 1. Restez avec nous dans un instant, toutes les infos de la bourse. Top à Wall Street avec Claire Lemaître de Boursier.com, suivi de l'interview Echo. Les soldes ont du retard à l'allumage, les ventes sont en recul de 30% sur les premiers jours. Pour en parler, Emmanuel Dutheil reçoit ce soir Francis Palombi, le président de la Confédération des commerçants de France. A tout de suite sur Europe.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
22h19 sur Europe 1, c'est l'heure de Top à Wall Street. Toutes les infos de la bourse avec Claire Lemaître de Boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Julien.
Séance mitigée à Wall Street avec le plongeon de deux poids lourds, IBM et Intel.
Oui, c'est du rouge pour le Dow Jones, moins 0,57%, 30 996 points. Le Nasdaq résiste mieux en toute petite hausse de 0,09%, 13 543 points. On reste au sommet à Wall Street, mais l'ambiance est donc plombée par la chute des géants Intel et IBM. IBM a déçu avec ses résultats trimestriels. Les ventes de ses activités de logiciels sont en berne. Les clients hésitent à signer des contrats en pleine crise et donc IBM plonge de 10%. Pour Intel, c'est une chute de plus de 9%. Là, les résultats trimestriels sont bons, mais c'est la stratégie du fabricant de puces qui inquiète. Et ça se traduit par une lourde sanction.
Les craintes liées à la crise sanitaire planent toujours également et ça pèse sur le pétrole.
Oui, le regain de l'épidémie de Covid pourrait freiner la demande de brut. Le WTI est en baisse. Il cède 1,4%, 52 $ le baril. Les grands producteurs sont emportés par ce repli. Chevron perd 0,3%, ExxonMobil moins 1,4%, ConocoPhillips moins 1,2%. L'euro, lui, reste solide, 1,2170 $, après le statu quo de la BCE, la Banque Centrale Européenne, hier. Sa présidente Christine Lagarde a réaffirmé que l'institution surveillait l'évolution du taux de change de l'euro.
Fin de semaine dans le rouge pour le CAC 40, toujours inquiet de la progression du virus et des risques de reconfinement.
Oui, le CAC 40 fait grise mine, en baisse de 0,56%, 5 559 points. Marché plombé par les indicateurs d'activité économique dans la zone euro pour le mois de janvier. Ils ne sont pas bons. Les confinements et autres couvre-feux dans les pays européens pèsent beaucoup sur cette activité économique. Alors ça se traduit à Paris par un repli pour les grandes valeurs industrielles. Alstom et Renault perdent 2%, du rouge aussi pour les banques. BNP Paribas par exemple recule de 2,8%.
La séance a été particulièrement compliquée pour le secteur du tourisme et celui des loisirs.
Oui, des valeurs déjà très chahutées depuis le début de la crise. Et les investisseurs craignent ce soir de nouvelles restrictions donc sur les voyages. Air France KLM perd 2,5%. Le groupe hôtelier Accor chute de près de 5%. Et puis ce soir à Paris, les marchés européens ont terminé en baisse. Moins 0,3% pour Londres, moins 0,2% pour Francfort. Madrid perd 1,1%. Milan moins 1,5%. Bruxelles moins 0,7%. Moins 0,6% Julien pour le CAC 40 qui termine à 5 559 points.
Merci beaucoup Claire Lemaître de Boursier.com et à lundi Claire. 22h22 sur Europe 1, on passe à l'interview éco. Emmanuel Dutheil, c'est à vous.
Bonsoir Francis Palombi.
Bonsoir.
Vous êtes le président de la Confédération des commerçants de France. Vous représentez 19 fédérations, donc vous êtes à ce titre extrêmement représentatif de la situation. Et justement, si nous avons voulu être en ligne avec vous ce soir, c'est pour parler des soldes. Soyons très concrets. Les soldes ont débuté ce mercredi. Comment ça se passe déjà pour le moment ?
Eh bien, écoutez, pour être concret, direct et loyal, ça se passe difficilement. Les résultats ne sont pas bons. On va dire en moyenne, moins 30-35% de résultats par rapport à l'année dernière.
Aujourd'hui, on est en baisse, donc on va dire d'un tiers, grosso modo, par rapport à l'année dernière. La principale raison, j'imagine, c'est la mise en place du couvre-feu au niveau national. C'est-à-dire que toutes les ventes qui avaient lieu jusque-là de 18h à 20h ne peuvent pas avoir lieu.
Bon, sur un plan pratique au jour le jour, bien évidemment, le couvre-feu impacte, mais pas que. Ce qui impacte le résultat des soldes, c'est tout simplement le virus qui est en train de grandir avec des virus mutants, avec l'inquiétude d'un nouveau confinement troisième du genre. Donc il y a quand même un contexte difficile.
Mais cela, en quoi ça a un impact ? Vous avez l'impression que du coup, vos clients ont peur de venir dans les magasins à cause de ce risque augmentant ?
Il y a un peu de ça. Les gens sont perturbés dans leur organisation de vie. Certains font du télétravail, d'autres pas. On n'a pas forcément réglé le problème des amplitudes horaires au sein des entreprises. Et il y a un vouloir de la part des commerçants. Par contre, là, je peux vous le confirmer, cher monsieur, il y a un vouloir des commerçants de s'adapter, c'est-à-dire d'ouvrir plus tôt le matin, d'ouvrir entre midi et deux. Et vous savez que nous avons eu l'autorisation d'ouvrir tous les dimanches, et y compris, bien sûr.
Mais là-dessus, il y a pas mal de commerçants qui se plaignent en disant que oui, il y a une sorte de volonté nationale, mais qui n'a pas été imposée. Et donc, c'est localement chaque préfet qui prend la décision. Et semble-t-il, ça coince dans certains endroits.
Alors, ça coince, oui, ça peut être le cas. Mais globalement, l'ordre qui a été donné aux préfectures, le mot d'ordre qui a été donné plus exactement aux préfectures, c'est celui de dire aux préfets, soyez les plus complaisants possibles. Si les commerçants qui vous demandent une autorisation, eh bien, donnez-la le plus possible. Donc, voilà, la méthodologie administrative, elle est que l'autorisation est quand même à demander.
Oui, parfois prend un petit peu de temps, effectivement. Du coup, vous avez un gros espoir pour ce week-end, avec là une journée à peu près normale du samedi, même si bien évidemment il y aura couvre-feu à 18h, et donc dans certains endroits, la possibilité d'ouvrir le dimanche.
Oui, moi j'espère beaucoup. D'ailleurs, laissez-nous arriver jusqu'au fin de semaine, samedi, dimanche, pour juger vraiment de l'impact des soldes 2021 par rapport à l'impact des soldes 2020. C'est clair, c'est net et c'est précis.
Mais est-ce que le problème, ce n'est pas tout simplement que les soldes avaient déjà commencé depuis maintenant plusieurs jours, puisque dès qu'on est client d'un magasin, on avait des ventes privées et puis... Là, on peut le dire, très souvent, les magasins faisaient la petite carte qui permettait que, même si on n'était pas client, on bénéficiait de l'offre privilège ou autre en fonction des magasins. Ils arrivent un peu tard, ces soldes, parce que tout le monde avait déjà cassé ses prix.
On peut dire que certains vont vous dire « reporter les soldes nous a affaiblis au niveau des résultats ». Moi, je n'en suis pas convaincu. L'affaiblissement des soldes, il ne date pas de 2020 ni de 2021, cher monsieur. En 2008, on a libéralisé les promotions à tout berzingue. Donc, il y a une sorte de liberté totale de faire des ventes privées, de faire des Black Friday, de faire tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, bien évidemment, comme il y a une libéralisation totale, eh bien, selon les besoins, selon les circonstances, selon les professions, il y a des promotions qui se font. Alors, les soldes, où on leur redonne une éthique forte, parce que le mot solde est quand même toujours significatif chez les consommateurs.
Bien sûr.
Mais bien évidemment, comme on a affaibli cette démarche des soldes avec toutes ces promotions que vous venez de citer, mais ce n'est pas la première année que ça se découvre.
Vous appelez justement, en cette période de Covid, à ce que notamment les grands groupes limitent fortement les promotions pour aider les petits commerçants à survivre.
Ah mais je demande... haut et fort, depuis des années, mais particulièrement actuellement, et je pense que nous avons une écoute qui commence à se faire ressentir avec Alain Griset, ministre des PME et du Commerce, qui commence à vouloir réglementer un petit peu, redonner un peu de cadre légal et vertueux aux pratiques commerciales, et l'Europe est également de la partie. Parce que vous savez, si je vous annonce quelque chose qui est un peu anecdotique, mais qui est une réalité, à l'heure d'aujourd'hui, l'heure d'un contrôle dans un grand groupe, une grande enseigne, la DGCCRF a du mal à retrouver l'origine du prix de référence. Mmh. Alors, je vous en passe, et des meilleurs. Mmh. Donc, vous voyez, il faut retrouver une éthique, et vous savez, depuis 1920, où elles ont été créées, un solde, c'est un produit que l'on vend en fin de saison, pour écouler ce qui reste. Voilà,
il faut revenir, du coup, selon vous,
si je vous parle,
à l'essence si des soldes pour pouvoir que ces soldes restent encore aujourd'hui performants et permettent à tous ces commerçants, et notamment ce week-end, de se redresser en cette période si compliquée. Un grand merci, Francis Palombi, président de la Confédération des commerçants de France. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. On se retrouve lundi, 22h20.
Merci, Emmanuel Duteil. Emmanuel, que l'on retrouvera également lundi à 13h dans La France Bouge avec Elisabeth Assayag. Au programme, cette question, est-ce que la France reste attractive pour les investisseurs internationaux malgré la crise du Covid? Pour y répondre, ils recevront Franck Riester, le ministre délégué en charge de l'attractivité. Restez avec nous. Dans un instant, on va retourner au Parc des Princes où le PSG est en train de prendre le large face à Montpellier. A tout de suite. 22h29 sur Europe 1 et comme promis, on conclut avec le foot, direction le Parc des Princes où l'on vous retrouve, Julien Froment, le PSG qui est en train d'atomiser Montpellier.
Oui, voilà, vous êtes parti et vous revenez, il y avait 1-0, maintenant il y en a 4-0 pour le Paris Saint-Germain face à Montpellier. On le rappelle, à Montpellier qui évolue à 10 depuis l'expulsion de son gardien de but Omlin à la 18e minute de jeu. Du coup, Paris en a profité dans cette seconde période avec des buts à la 60e signé Neymar, 61e Mauro Icardi et à la 63e le 4-0 Kylian Mbappé, le doublé, 14e but cette saison en championnat pour l'international français qui avait des petits soucis, on va dire, d'efficacité. Ben là, il s'est rassuré ce soir, Mbappé. À noter du côté du PSG, la sortie quand même du gardien de but, Keylor Navas, vraisemblablement petite douleur au dos, et surtout du capitaine Marquinhos qui semblait gêné au niveau des adducteurs. Mais sinon, tout va bien pour le Paris Saint-Germain, donc qui mène 4-0 et qui conforte sa place de leader de la Ligue 1 après quasiment 70 minutes de jeu.
Merci beaucoup, Julien Froment, en direct du Parc des Princes pour Europe 1. Bonsoir, Sabine Marin.
Bonsoir, Julien.
Vous allez bien?
Ça va très bien, merci.
39-21 pour vous appeler dans la Libre Antenne qui débute donc maintenant et ce jusqu'à 1h du matin.
Et on vous attend dans une demi-heure pour un prochain point sur l'info.
À tout de suite.